With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Julien Pereira. Vous avez l'habitude d'entendre des introductions caustiques, parfois acerbes, souvent mesquines, mais cette semaine vous n'aurez rien de tout cela. Aujourd'hui, Maxime ayant quelques rendez-vous d'affaires dans d'autres contrées, me revoici aux côtés de Martin Mosny qui, croyez-le ou non, n'est absolument pas l'homme désagréable que certains vous ont décrit ces dernières semaines.
Ah bah ça démarre bien, ça démarre bien.
À mes côtés, je vois quelqu'un de rayonnant, porté par la joie de vivre, à peine quelques cheveux gris, mais juste ce qu'il faut, la bedaine encore discrète pour un homme dans la fleur de l'âge, le sourire efficace et surtout, surtout, l'esprit libre et les avis tranchés qui, à chaque fois, vous permettent de passer un moment enrichissant à l'écoute de ce podcast.
Il va me démontrer.
Croyez-moi, tout cela est vrai, sincère. Et certainement pas lié au fait que j'ai oublié ma carte bleue et que je compte sur lui pour me remplir la panse juste après notre enregistrement. Comment ça va, Martin ?
Eh bien écoute, ça va très bien. Alors, j'ai eu plusieurs accomplissements dans ma vie.
J'écoute.
Mon mariage, ma femme écoute, donc je suis voilà. La naissance de mon premier enfant.
Il écoute aussi.
Voilà. Mon CDI Eurosport, évidemment. Mais je pense que tout ça est surpassé aujourd'hui parce que c'est la première fois que je fais le FC Stream Team avec Julien Pereira. Donc, dans ma hiérarchie personnelle, tu vois, ça passe tout au-dessus. Au-dessus de mon mariage, la naissance de mes enfants. Enfin, voilà.
Donc, toi aussi, t'as oublié ta carte bleue.
Non, j'ai pas oublié ma carte bleue parce que moi, je suis sincère. Et moi, je fais pas des petites misquineries comme ça. Moi, c'est gratuit, Julien, ce compliment. Il est gratuit. Donc, je suis heureux. En même temps, vu avec qui j'ai fait la Stream Team jusqu'ici, c'est pas bien difficile d'être meilleur.
J'osais pas le dire, mais c'est bien que...
Entre Maxime Dupuis, Cyril Morin, j'ai dû le faire peut-être une fois avec Adrien aussi. Enfin bon, bref, ah oui, que des baltringues. Mais en plus, là, on parle pas c'est des baltringues de compétition, là. C'est le Real Madrid des baltringues, c'est les Galactiques des baltringues. Donc Julien, enfin quelqu'un de compétent à mes côtés. Donc ça me fait plaisir, Julien, que tu sois là.
Puisqu'on est compétent, on peut donner le...
Le sommaire. On peut donner le sommaire. On va démarrer en parlant d'Antoine Griezmann, qui lui est de moins en moins compétent pour le coup, le pauvre.
Bel enchaînement.
Ouais, bel enchaînement. C'est la Cadena Copé qui nous annonce aujourd'hui que l'Atlético Madrid, ne devrait pas lever son option d'achat à 40 millions d'euros. Donc, on va se poser la question de l'avenir d'Antoine Griezmann. Et spoiler, on a peur. On a très très peur. Ensuite, Julien, on parlera de la Ligue 1.
Ouais, on parlera de la Ligue 1 parce que ce week-end, 37e et avant-dernière journée du championnat, c'est simple, on s'est lancé dans un petit jeu, on va faire des petits paris pour les deux dernières journées, à la fois sur le fond du classement, aussi sur les places européennes.
Et quelque chose m'a dit, moi tu vois, je miserais sur Paris champion. Je prendrais ce risque-là.
Et je crois qu'on est d'accord aussi sur les deux derniers.
Exactement, on est d'accord sur les deux derniers, les pauvres. Et on terminera avec notre équipe type de la saison de Ligue 1. L'équipe type, les meilleurs, les 11 meilleurs. Et puis on s'est dit, parce qu'on est des enfoiros.
Surtout toi.
Ouais, surtout moi, parce que je suis un gros enfoiros. On a fait l'équipe type et tout ça. Et après, c'est venu, on a commencé à parler du joueur. On s'est dit, faut faire l'équipe des naufragés de la Ligue 1. Vraiment une équipe où les gars ont eu des mal cette saison. Donc voilà, on terminera avec 11 petites vacheries, on va dire. Le 11 des naufragés de la Ligue 1. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Alors s'il n'y a que ça qui vous intéresse, pourquoi pas après tout. Vous prenez le petit curseur sur le podcast et vous allez au bout. Parce qu'on vous rappelle, évidemment, que ce podcast est retrouvé sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même les mauvaises. Voilà. Mais aussi les vidéos. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Julien Pereira dans le FC Stream Team. Il faut vraiment que tout le monde soit absent. Là, il faut qu'il y ait une pandémie mondiale ou alors pour que Julien débarque. Donc, si vous voulez voir Julien...
Je suis le 24e joueur de l'effectif.
Ouais, t'es le 24e. C'est vrai que dans la liste des 23, t'es le 24e, toi, généralement. Mais là, t'es là. Non, mais parce que... Pourquoi? Parce que Julien, il est bon partout. C'est ça, le problème. C'est qu'il est bon partout. Donc, si vous voulez voir Julien Pereira, sa pilosité affirmée, ses épaules de plus en plus larges, parce qu'il pousse, il pousse, il pousse à la salle, rendez-vous sur eurosport.fr pour les vidéos, les meilleures vidéos de ce FC Stream Team. On peut y aller, je crois.
On peut y aller.
Ouais, je suis bavard. Je suis bavard, mais c'est parce que je suis heureux que tu sois là. Julien, on va démarrer cette émission avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui traverse une saison très compliquée et dont l'avenir semble plus bouché que jamais. Pourquoi ? Parce que ce vendredi, la Cadena Copé nous annonce qu'il y a eu un repas entre les dirigeants de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone et que les Colchoneros auraient fait savoir qu'ils ne voulaient pas débloquer l'option d'achat de 40 millions d'euros d'Antoine Griezmann. Vous savez, il est prêté depuis un an. Il y avait une clause, une option d'achat dont on pensait qu'elle allait sauter, puisque Griezmann et l'Atlético Madrid, généralement, c'est une histoire qui marche. Et non, une saison compliquée, 3 petits buts seulement en Liga. Il reste sur 15 matchs sans marquer. Bref, c'est la Bérésina pour Griezmann. Julien, quel avenir pour le champion du monde si Atlético ne fait pas sauter l'option d'achat ?
Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, Griezmann a un salaire, à la fois un salaire et une valeur, en tout cas jugée par le FC Barcelone, qui ne correspond plus à son niveau réel. Tu l'as dit, il n'y a que 3 petits buts en Liga cette saison. C'est très compliqué ces derniers mois aussi dans le jeu. On voit que physiquement, c'est aussi plus difficile depuis cette fameuse blessure de décembre et cette rechute du mois de janvier. Donc là, on se demande où est-ce que Griezmann peut atterrir et surtout, est-ce que Griezmann a encore sa place dans le gratin européen, tout simplement.
C'est ce qui est très dur avec Antoine Griezmann parce que aujourd'hui, pour moi, il est face à un trou noir, Antoine Griezmann. Un trou noir qui s'est créé lui-même après des choix de carrière hasardeux. Là, il reste sur 3 années très compliquées, mais celle-ci est encore plus compliquée que les deux autres. Alors, il y a eu la blessure, certes, mais il faut juste se remettre en perspective la carrière de Griezmann. Il y a 3 ans, il part au FC Barcelone pour 120 millions d'euros. 3 ans plus tard, le club où il a 120 millions d'euros, le club où il a brillé, le club qu'il a adoré, ne veut même pas lâcher 40 millions d'euros. Donc, c'est divisé par 3 sa valeur. Même ça, c'est encore trop cher et ça en dit loin de la dégringolade d'un Antoine Griezmann qui, comme tu le disais, aujourd'hui, on le voit où Antoine Griezmann on ne le voit plus dans un immense club européen parce qu'aucun club n'est capable de mettre 18 millions d'euros pour son salaire. Il n'y a pas de place dans l'effectif pour Antoine Griezmann. 3e du Ballon d'Or 2016-2018, aujourd'hui remplaçant sur ses derniers matchs à l'Atlético Madrid. Ça s'appelle une grosse dégringolade dans la hiérarchie des attaquants mondiaux. Tu le vois aller où, toi, l'été prochain, dans quel rang de club ?
Un club qui finalement sera plus petit que le statut qu'il avait.
Plus petit que lui.
Plus petit que lui, tout simplement. Donc, c'est des clubs qui soit cherchent justement à se développer. On pense aux nouveaux riches, notamment à Newcastle. On pense à des clubs qui ont de vrais moyens, mais qui ne font pas partie du top 8, top 10 européen. L'AC Milan, par exemple, qui maintenant
Et encore, ce serait pas si mal, l'AC Milan.
Ce serait pas si mal, mais ce serait pas encore le gratin européen.
Tout à fait.
On pense à des clubs qui ont des moyens, qui ont l'habitude aussi de chercher à relancer des joueurs qui ont quand même un certain statut, un certain vécu, une certaine carrière. Je pense à Arsenal, notamment. Mais là, on n'est plus du tout sur des clubs de la dimension de Manchester City, du FC Barcelone, du Real Madrid, voire du PSG. On en avait parlé il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, c'est effectivement très compliqué, à la fois pour le joueur, aussi pour l'équipe de France. On pourra en reparler plus tard.
Mais
globalement, on ne voit pas une issue qui ne serait pas une forme de...
D'échec, de
rétrogradation.
Ouais, de rétrogradation, parce qu'on n'a pas parlé du FC Barcelone. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il appartient toujours au FC Barcelone. Et si l'Atlético ne déclenche pas l'option d'achat, il retourne à Barcelone. Mais comment imaginer Griezmann retourner à Barcelone, sachant que le Barça s'est refait la cerise sans lui, et puis qu'à Barcelone, en attaque, il y a de quoi faire. Braithwaite, De Jong, De Paille.
T'as commencé par Braithwaite quand même.
Ouais, j'ai commencé par Braithwaite, je ne sais pas pourquoi. Fati, Aubameyang, Torres et le FC Barcelone qui attend cet été à faire un gros coup au poste d'avant-centre. On parle de Lewandowski qui, selon la presse allemande, ne veut pas prolonger alors qu'il lui reste qu'un an de contrat et Lewandowski voudrait un nouveau challenge. Le FC Barcelone serait prêt à l'accueillir. Si ce n'est pas Lewandowski, ce pourrait être Alvaro Morata, que Xavi tient en haute estime. Bref, On ne voit pas comment, mais de toute façon, il n'est jamais rentré dans ce projet barcelonais. Aujourd'hui, que ce projet-là a pris une autre direction, une autre dimension, est parti voilà, sur une nouvelle rail, bon, on ne voit pas comment Antoine Griezmann pourrait s'intégrer dans ce projet-là. Bref, alors il y a l'option MLS, mais c'est beaucoup trop tôt. Il y a la Coupe du Monde au mois de novembre. On ne voit pas comment Antoine Griezmann pourrait partir en MLS, parce que c'est sans doute là-bas qu'il finira sa carrière, mais c'est trop tôt. On a longtemps parlé de Manchester United, mais avec Ten Hag, Manchester risque de prendre là aussi de nouvelles options. Et je ne pense pas qu'Antoine Griezmann, 31 ans, on le rappelle, soit le prototype de joueur que voudrait Ten Hag. Alors, je ne veux pas remettre en cause le talent d'Antoine Griezmann, tout ce qu'il a fait jusqu'ici, mais je pense que moi, il y a deux choses. Il y a eu des choix de carrière catastrophiques, et je pense que l'aller-retour Madrid-Barcelone lui a fait du mal aussi bien à Barcelone qu'à l'Atlético, parce qu'on se souvient.
Même le transfert au Barça, un an après, si je puis dire.
Ouais. Ah oui, tout
je
à
pense
fait.
Que même s'il était parti au moment où il le voulait vraiment, c'est-à-dire un an avant,
en 2018.
Peut-être que ça aurait changé quelque chose parce que après, finalement, la situation sportive et économique du Barça s'est dégradée, donc la situation de Griezmann aussi. Peut-être que s'il était parti un an plus tôt, ça aurait déjà changé beaucoup de choses.
Peut-être, mais j'ai quand même un doute là-dessus, mais effectivement, peut-être. Donc il y a ça, il y a ses choix. Il y a aussi sa grosse blessure qui, quand même, cette année, c'est la première fois qu'Antoine Griezmann est éloigné si longtemps des terrains. Et je pense qu'effectivement, là, on le prend à un instant T où il n'a pas marqué depuis 15 matchs, mais ça découle aussi de ça. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose, pas nécessairement, c'est que je pense qu'il y a une confiance qui s'est complètement effritée, qui s'est effondrée. Et vous pouvez prendre n'importe quel joueur, le meilleur qu'il soit, quand la confiance n'est pas là, ça donne ce qu'on voit cette année. Si on nous avait dit en début de saison que Griezmann ne marquerait que 3 buts en Liga, alors la saison n'est pas terminée, mais de toute façon, il ne passera pas la barre des 10, ça c'est certain, mais 3 buts en Liga, c'est indigne des standings d'un joueur qui, une nouvelle fois, a figuré deux fois sur le podium du Ballon d'Or sur ces 6 dernières années. Donc, moi, je pense que c'est sans doute une question de confiance, mais je pense aussi que, de l'autre côté, la confiance des clubs majeurs, là aussi, elle s'est effritée auprès de Griezmann. Et oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps.
Et pour aller dans le sens de ce que tu disais sur le lien entre la confiance et la blessure, souvenez-vous de Griezmann qui quitte quand même le terrain en larmes et qui vraiment a pris un coup. Ce n'était pas un joueur qui avait l'habitude de manquer beaucoup de matchs, en tout cas de se blesser de cette manière et de rechuter. Là, il a 31 ans, il a quand même un jeu qui est énormément basé sur sa capacité physique.
Ouais.
Sa dépense, exactement, pour son repli défensif. Il a 31 ans, s'il n'a pas été capable ou s'il n'est pas capable encore aujourd'hui de se remettre de ça, ça remet tout en cause finalement. Ça remet à la fois sa confiance pour les mois à venir, et son niveau aussi, son niveau de jeu tout simplement.
Après, il faut, pour apporter quand même un petit rayon de soleil, s'accompagner en Ligue des Champions n'est pas si immonde que ça. On se souvient, je crois qu'il met un doublé contre Liverpool. En huitième de finale, aller face à... je crois que c'est United que joue l'Atlético. À Old Trafford, il est très bon. Il est très très bon, il fait une passe D, me semble-t-il. Et c'est presque le meilleur joueur sur le terrain, quasiment. Après, face à City, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, voilà, tout n'est pas acheté. Le problème, c'est, tu l'as dit, 31 ans. Le problème, c'est son salaire aussi qui lui barre beaucoup de routes. Donc, ça va être compliqué pour Antoine Griezmann. Ça va être un été compliqué. Il y a la Coupe du Monde au mois de novembre. Il reste, quoi qu'on en dise, un élément majeur de l'équipe de France de Didier Deschamps, puisqu'il enchaîne les matchs, il est sur un record absolument démentiel. Oui, le centre de gravité s'est un peu déplacé vers Benzema et Mbappé, et oui, son niveau de responsabilité au sein des Bleus a un tout petit peu baissé. Malgré tout, aujourd'hui, on ne voit pas comment l'équipe de France pourrait tourner sans Antoine Griezmann, même encore aujourd'hui, même à l'issue de cette saison qui est, on peut le dire, catastrophique en club. Il ne faudrait pas que ça dure jusqu'à la Coupe du Monde, parce qu'en plus, on rappelle que Didier Deschamps aura beaucoup moins de temps pour mettre en jambe cette équipe de France, pour requinquer ses joueurs par rapport aux Coupes du Monde précédentes, puisque c'est un mondial qui arrive au beau milieu de la saison. Bref, c'est un été important pour Griezmann, c'est un été important pour les Bleus, un été important pour sa carrière. Là, à l'heure H, pour moi, j'ai beaucoup de mal à...
C'est difficile d'être optimiste.
Ouais, c'est difficile d'être optimiste et difficile d'identifier un challenge qui pourrait le relancer. À moins qu'ils descendent encore d'un rang.
Oui, ça passera. Il y a de grandes chances
de toute façon,
que ça passe par des concessions.
Ah, ça passe par des concessions.
À la fois au niveau salaire, aussi au niveau standing du club dans lequel il évoluera la saison prochaine.
C'est un club qui, de toute façon, aura besoin de Griezmann pour grandir.
Absolument.
Donc, ce sera forcément un club qui sera, sans doute, un club qui sera plus petit que lui. Parce que si on prend un club du standing de l'Atlético Madrid, c'est plus sûr qu'il soit titulaire. Et c'est pas sûr qu'on lui propose le salaire qu'il a aujourd'hui. Donc, Bon, bah voilà, on vous a fait un petit tour du panorama pour Antoine Griezmann. C'est pas la grosse patate, hein. C'est même plutôt déprimant. Parce que c'est quand même un des plus grands joueurs français des 10 dernières années. En équipe de France, c'est peut-être le meilleur. Et là, il est franchement dans la passe la plus mauvaise de sa carrière. Barcelone, il y avait des excuses. L'Atlético, il y en a beaucoup moins. Donc, courage Grisou. Hein.
Courage Grisou. Et puis, on verra dans les prochaines semaines si il trouve finalement un challenge, un bon compromis pour lui permettre de continuer et de retrouver son meilleur niveau surtout.
J'aime bien cette petite voix là. J'aime bien cette petite voix de Julien Pereira. Parce que... Alors, c'est pas Maxime qui parle.
Non.
Julien Pereira, c'est vraiment…
Plus
c'est...
Cyril que Maxime.
Je sais pas si vous vous souvenez de Macha Meryl. vous vous souvenez de Macha
Meryl. Ça, c'est pas un compliment.
Non, mais voilà, c'est cette petite voix… Très, voilà, on est dans les graves, on est dans le bas. Et en fait, Julien, quand il parle, ça vous réchauffe. Vous êtes un peu déprimé, c'est un doudou. Voilà, sa voix, c'est un doudou. Moi, ce soir, je vais m'écouter la Street Team pour aller me coucher.
Et je ne veux pas la suite.
Non. Et je vais bien dormir. Parce que t'écoutes Julien, il t'apaise. Tu vois, t'es stressé, t'as passé une sale semaine. Il y a le prix de l'essence, machin, tout qui te… Voilà, les pâtes à 5 euros. Et puis t'as Julien. Il te parle de Griezmann, il peut te parler de n'importe quoi, mais quand il te parle comme ça, t'es bien.
Je suis Karl Lagerfeld.
Ah, t'es bien, ouais, je suis sur ma serviette là, sur la Côte d'Azur au soleil, je suis bien quand tu me parles, Julien. Tu me réchauffes.
Est-ce qu'on peut passer à la deuxième partie de cette émission?
Et je vais faire toute la fin de l'émission avec ta voix, avec ton ton, on peut tout à fait y aller. Tu peux m'amener au bout du monde, Julien.
Deuxième partie d'émission.
Vas-y.
Nos paris, voilà, pour la fin de saison, 37e, 38e journée. Qui finira deuxième, qui finira troisième? On sait que le PSG est champion de France. Qui sera relégué en Ligue 2? Qui jouera les barrages? Martin, dis-moi tout.
Alors, on a chacun fait nos paris avec Julien. On va démarrer par les miens, donc, puisque tu m'as si brillamment lancé. Qui terminera deuxième? Pour moi, ce sera l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce qu'ils ont conservé ce petit matelas sur Monaco. Moi, ça me semblait capital. La saison, elle pouvait vriller totale à Lorient. Pour moi, le match clé, c'est plus le match contre Lorient que contre Rennes, parce qu'ils gardent un petit matelas sur l'AS Monaco. Un nul à Rennes, pour moi, pourrait suffire à l'Olympique de Marseille, puisque la saison se terminera avec la réception de Strasbourg. Il n'est pas dit que Strasbourg joue encore une Coupe d'Europe, on verra. Mais si la qualification en Ligue des Champions se joue face à Strasbourg au Vélodrome, pour moi, ça devrait aller. Alors oui, il ne faut pas perdre à Rennes. Rennes qui a perdu, on le rappelle, la semaine dernière et qui a joué mercredi face à Nantes. Donc, il y a un vrai avantage pour l'Olympique de Marseille, dont on a un moment craint qu'il se présente avec un effectif complètement décimé. Mais à part Payet, ça devrait rouler. Alors oui, Payet n'est pas là, c'est un vrai handicap. J'ai dit la semaine dernière dans le Stream Team, je ne vais pas dire le contraire. Mais moi, la victoire à Lorient me donne beaucoup d'optimisme pour cet Olympique de Marseille. Je vais continuer et après tu feras tes paris à toi. Troisième équipe, évidemment, par contre, ça sera l'AS Monaco qui a aujourd'hui 3 points d'avance sur Rennes. C'est trop pour les Rennais. Et bah, Monaco, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 depuis deux mois et demi. Je ne vois pas la machine s'enrayer alors qu'il reste Brest et Lens. Donc, je pense qu'ils finiront troisième. Ça se jouera à rien pour moi avec l'OM. Hein. Ça sera vraiment un bras de fer jusqu'au bout. Mais je pense qu'il manquera peut-être un point ou deux à l'AS Monaco qui s'est réveillé malheureusement un tout petit peu trop tard. Mais troisième, c'est déjà bien parce que c'est tour préliminaire de Ligue des Champions. Quatrième, je mets le Stade Rennais. Ouais, le Stade Rennais parce que là, ce sera des gros regrets quand même pour le Stade Rennais qui, pour moi, est l'équipe la plus emballante de Ligue 1 cette année, en tout cas celle dont j'ai préféré voir les matchs. J'ai vu des trucs absolument fabuleux, mais ça a manqué de régularité. Il y a beaucoup trop de défaites pour le Stade Rennais, mais je les vois quand même accrocher la quatrième place. Pour ce qui est de la fin de tableau, je ne vois pas de surprise maximale. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 points d'écart entre Metz et Saint-Etienne, donc entre le 19e et le 18e, et 3 points d'écart entre le 18e et le 17e, Lorient et Saint-Etienne. Donc, je vois Saint-Etienne terminer barragiste 18e. Lorient et Calédrier trop favorables. Je crois que c'est Bordeaux et 3 pour Lorient. Et il suffit finalement d'une victoire à Saint-Etienne pour s'assurer la place de barragiste. Il y a Reims qui vient ce week-end à Geoffroy Guichard. Reims qui n'a plus rien à jouer. Donc, je vois bien les Verts quand même assurer la 18e place. Mais c'est Bordeaux, c'est ciao. Mais c'est Bordeaux, c'est ciao. Metz, dernier match. Alors, je me disais, Metz, pourquoi pas? À la limite, ils prennent 6 points. Bon, ils prennent 6 points. Si Saint-Etienne n'en prend que 3, allez, ça peut le faire. Le problème, c'est que le dernier match de Metz, c'est au Parc des Princes, face au PSG donc. Et surtout, c'est potentiellement le dernier match de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG. Et à mon avis, il voudra partir avec un espèce de feu d'artifice. Donc, c'est ni le bon moment, ni le bon endroit. Oui, Caen avait assuré son maintien, on se souvient, en 2018, au Parc des Princes en accrochant un nul. Mais là, je pense que le dernier match d'Mbappé va condamner le FC Metz. Bordeaux, ils sont déjà trop loin pour moi.
Je commence par la fin pour faire un petit peu de suspense.
Vas-y, commence par la fin pour faire un petit
Parce
peu de
que suspense. Globalement, sur le bout du tableau, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça restera comme ça. En tout cas, les positions resteront figées. Surtout que Bordeaux, c'est très compliqué depuis des semaines.
Je pense que la défaite à Angers, ça a tout tué pour Bordeaux.
C'est la goutte d'eau. Et puis, tu le disais, entre Lorient et Saint-Etienne, il y a aussi la différence de but qui est quand même très favorable à Lorient. Donc, je pense qu'on restera sur Saint-Etienne 18e, Metz 19e et Bordeaux dernier.
On est d'accord là-dessus.
On est d'accord là-dessus pour
Mais pas sur le reste.
Pas sur le haut de tableau. Alors, je commence par la fin. Moi, je vois malheureusement, je dis malheureusement parce que je suis un peu d'accord avec toi sur ce que Rennes a été capable de produire, que c'était vraiment quelque chose de spectaculaire. On a beaucoup apprécié voir Rennes cette saison. J'ai peur quand même que la fin de saison leur soit un peu fatale et que Rennes finisse 5e du classement derrière Nice. Pourquoi derrière Nice ? Parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer une équipe de Christophe Galtier flancher sur la fin de saison. Ça reste une équipe solide. Alors oui, il y a eu cette défaite en finale de la Coupe de France qui a forcément touché le moral des joueurs. Oui, il y a cet épisode avec les ultras niçois également. Il n'empêche, je ne vois mal une équipe solide comme Nice craquer sur ses derniers matchs et lâcher cette 4e place. Sur la 3e place,
oula.
Moi je vois l'Olympique de Marseille.
Ouf.
Parce que
et donc deuxième l'AS Monaco.
Deuxième l'AS Monaco absolument, pour une question simple, une question dynamique. Monaco est absolument injouable depuis 8 matchs, c'est 8 victoires consécutives. Il y a un joueur qui est absolument en feu sur cette fin de saison et qui a encore beaucoup à montrer parce que cet été peut être important pour lui, c'est Aurélien Tchouaméni évidemment.
Monstrueux.
Il y a Ben Yedder qui est à 21 buts, donc je vois mal Monaco ne pas prendre 6 points sur ces deux derniers matchs, pardon. Surtout que Lens, possiblement, n'aura plus rien à jouer sur la 38e journée. Pour Marseille, c'est plus compliqué parce que moi, je pense vraiment que l'absence de Payet est assez catastrophique pour le jeu de l'OM. Parce que depuis plusieurs semaines, même s'il y a eu des victoires, même si l'OM s'en est globalement bien sorti, dans le jeu, c'était pas aussi flamboyant que ça l'était en première partie de saison. Et même
Lorient, c'était bien quand même. Oui, mais c'était Lorient.
C'était Lorient.
Voilà.
Même sur la période janvier-février, je trouvais que c'était plus intéressant dans le jeu. Là, il y a encore beaucoup de doutes autour de certains joueurs, notamment Milik. Gerson devrait être là, c'est aussi important. Mais Marseille, tu l'as dit, joue deux équipes qui jouent le haut tableau, Rennes, Strasbourg.
Et Saliba absent la 38e journée aussi.
Et j'ai du mal à voir Strasbourg, même si Strasbourg ne joue pas de Coupe d'Europe. Depuis plusieurs matchs, c'est quand même une équipe qui est très accrocheuse. Ils ont accroché le Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain en Charentaise. Hein. Trois aussi à accrocher le Paris Saint-Germain sur Julien Pereira.
Ben justement, c'est ce que tu disais sur Metz. Je suis pas certain.
Oui, mais ça sera le dernier match d'Mbappé. Mbappé il va partir, il va marquer 10 buts, je te le dis, contre le SMS.
Grosso modo, moi, je vois Marseille prendre 2 points sur les deux derniers matchs et Monaco en prendre 6, donc ça finira avec un point de plus.
Ah oui, carrément. Ah ouais, d'accord.
Voilà.
Ok, donc écoutez, réponse dans. En tout cas, on va se régaler, ce qui est certain. Suivez ces multiplex d'ailleurs sur Eurosport.fr. On va se régaler pour les deux derniers matchs, les deux dernières journées, pardon. La vraie bataille, la grosse bataille, la bataille qu'on suivra, c'est évidemment le Monaco-Marseille. Ce que je trouve dommage, c'est que Rennes ait perdu à Nantes parce qu'on aurait eu une bataille à 3 et ça aurait été vraiment chouette. Mais la Rennes, pour la Ligue des Champions, c'est râpé. On va terminer cette émission justement en faisant une sorte de bilan de la Ligue 1 avec deux équipes. On va d'abord vous parler de notre équipe type, puis après de l'équipe des naufragés de la Ligue 1.
Je peux préciser une chose ?
Vas-y.
L'équipe type, c'est mon idée. L'autre, c'est celle de Martin.
Et tu es le petit ange.
Ça en dit beaucoup sur le caractère. Voilà,
tu es l'ange, je suis le démon. mais voilà, c'est rigolo aussi d'avoir les naufragés. On va démarrer avec l'équipe type donc du FC Stream Team. Maxime n'est pas là, on en profite. Enfin, quelque chose de cohérent dans cette émission. Donc, on va vous présenter l'équipe type de l'année en Ligue 1, selon nous. On va démarrer tout de suite avec le gardien. Le gardien, tu voulais mettre Anthony Lopez, toi. Tu as hésité.
J'ai hésité, exactement.
Et finalement, on a choisi Benitez de l'OGC Nice, qui, s'il est un tout petit peu moins décisif ces dernières semaines, a vraiment fait une saison globalement grandiose. Nice, meilleure défense de Ligue 1, est d'assez loin, donc c'est surtout, enfin en partie, surtout c'est un peu dur pour les défenseurs, mais c'est en partie grâce au gardien des Aiglons qui a vraiment fait une grande saison, beaucoup d'exploits sur sa ligne. Et il a pâti, enfin, il profite aussi du fait que finalement, dans le haut de tableau, Paul Lopez, Mandanda, Donnarumma, Navas, bon, à Rennes, c'est encore pire. Voilà, lui, au moins, il s'est imposé comme incontournable, donc c'est pour ça qu'on a, choisi Lopez, Benitez, pardon, assez facilement.
Saliba, c'est...
Ah oui, Saliba, bah oui, on va continuer avec... Saliba, c'est assez simple, hein. C'est peut-être, j'allais dire la révélation, non, mais c'est sa première vraie saison, en tout cas en Ligue 1, sa saison complète. On avait vu plein de promesses à Saint-Etienne et à Nice, mais il fallait réussir à Marseille. Il bouge jamais du 11 comme Guendouzi, ça en dit long quand même sur Saliba, qui a tout de suite pris la mesure de Marseille à son âge, donc il se devait d'être dans ce 11 type.
Et je peux me permettre de préciser quelque chose?
Oui, tu peux.
Parce qu'il y a quand même eu quelques critiques ces dernières semaines.
Oui, il y a eu un printemps compliqué.
Alors justement, il faut aussi juger le niveau moyen. Ouais. Effectivement, il fait une première partie de saison extraordinaire.
Immaculé, incroyable.
Vraiment extraordinaire. Donc, on a jugé un petit peu sa deuxième partie de saison par rapport à la première. La deuxième partie de saison, elle n'est pas aussi impeccable que la première, mais elle est quand même…
Mais c'est l'équipe type de la saison, pas des trois derniers mois.
Exactement. Et elle est quand même, c'est quand même un sacré niveau sur l'ensemble de la saison.
Exactement.
On continue avec Marquinhos.
Incontournable.
Incontournable, inévitable. On l'a lui aussi critiqué après la double confrontation avec le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Il n'empêche, ça reste une référence mondiale, c'est le meilleur défenseur de Ligue 1 parce qu'il a tout, parce qu'il est un capitaine, parce que c'est encore une fois l'homme qui incarne peut-être le plus ce que le PSG devrait chercher à avoir en termes de caractère, en termes de personnalité, en termes de leadership. Donc Marquinhos, c'est globalement une évidence, comme depuis plusieurs saisons maintenant.
Dante.
Tu parlais de Benitez.
Bah oui, bien sûr, Dante. Dante, c'est le patron de la défense de l'OGC Nice. C'est le patron donc de la meilleure défense de Ligue 1. Il s'était blessé. Il est plutôt très jeune, mais malgré tout, ça reste une valeur sûre. Alors avec Todibo, hein. Todibo, on a hésité aussi. Mais il nous fallait au moins un des deux défenseurs centraux. On a choisi Dante parce que pour la constance. Pour la constance du gars, donc voilà.
Il y a une phrase qui résume toute la saison de Dante qui a été... lâché par Christophe Galtier en conférence de presse, je crois que c'est juste avant la finale de la Coupe de France, où il dit « J'ai tout fait pour lui rendre la vie difficile. Il a essayé de le mettre en concurrence, il a essayé de le sortir un petit peu de sa zone de confort. » Et finalement, Dante, malgré ça, malgré aussi la blessure qui au ligament croisé fin de la saison 2020, est revenu à son meilleur niveau. Et aujourd'hui, à 38 ans, c'est toujours une valeur sûre également.
Alors, on a choisi donc de jouer avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Le premier piston s'appelle Jonathan Clauss. Pourquoi Jonathan Clauss? Alors lui, c'est pareil, à l'image du RC Lens, il s'est un peu essoufflé sur la deuxième partie de saison, mais il en a 10 passes décisives quand même. 10 passes décisives, je crois que c'est le classe 4e, 3e ou 4e meilleur passeur de Ligue 1. Ça lui a ouvert les portes de l'équipe de France. Il faut quand même savoir qu'il est professionnel depuis pas très longtemps, ce jeune homme. Enfin, d'ailleurs, c'est plus un jeune homme. Hein. Et donc, ouais, on a mis Jonathan Clauss parce que, pour la belle saison du RC Lens, mais aussi pour ses prestations individuelles qui restent au-dessus de la moyenne. Et puis, on va être tout à fait honnête, au poste de piston droit, il n'y en a pas 50. Latéral droit, piston droit, ça reste le poste faible. Et lui, pour le coup, il est tout sauf faible.
Et tout sauf faible et encore globalement sur la saison, niveau moyen, excellent. Le suivant est pour toi également, Aurélien Tchouaméni, parce que c'est ton petit chouchou.
C'est mon petit chouchou. C'est mon petit chouchou, j'avoue, Aurélien Tchouaméni. Bon, c'est pas que le mien d'ailleurs. C'est peut-être la plus grosse progression de l'année. Même pas, parce qu'il était déjà bon l'année dernière. C'est le meilleur milieu de terrain français de la saison pour moi. Vous les prenez tous, hein, Kanté, Pogba. Vous les prenez tous, Guendouzi et compagnie. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Il a en plus marqué un doublé la semaine dernière, mais il n'a même pas besoin de marquer pour être dans cette équipe type. C'est-à-dire que le mec a tout, récupération, construction, le volume de jeu de ce jeune homme est absolument incroyable. L'équipe de France lui tend les bras, mais pas que l'équipe de France, Liverpool, le Real Madrid. Il se devait absolument d'être dans cette équipe type et ça a été, on a balisé l'équipe, on a mis quatre premiers noms, et il était là tout de suite.
C'était une évidence.
Ouais, absolument. C'était une évidence.
Un joueur qui était peut-être... moins évident, en tout cas, c'est un joueur plus discret, mais qui a lui aussi toute sa place dans ce 11, c'est Bourigeaud, le Rennais, tout simplement, parce que si Rennes nous attend plus sur le terrain, notamment sur le plan offensif, lui y est pour beaucoup, parce que ça fait quelques années déjà qu'on le voit remonter régulièrement sur les classements des passes clés notamment. Là, c'est sur le classement des passes décisives. Il en est à 13 cette saison en Ligue 1, deuxième ex aequo avec Lionel Messi notamment. Ça vous place quand même le joueur. Et surtout, sa patte gauche est un régal absolu. pour les yeux.
Alors, le piston gauche, pas évident à trouver. Petite astuce, hein, petit... Mais on a mis quand même Caio Henrique, Julien.
Caio Henrique, parce que... je crois que c'est Kovac qui disait de lui que c'était l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Le meilleur joueur de l'effectif. En début de saison, absolument.
Ah, en début de saison, oui.
Et Philippe Clément, après, quand Philippe Clément est arrivé, il a essayé de le placer un peu partout, notamment en meneur de jeu, ça c'était assez incroyable. Mais ça reste en tant que latéral gauche, piston gauche, qu'il est le meilleur, parce qu'offensivement, il est très bon, il en a 8 passes décisives lui aussi. Et que défensivement, contrairement à l'image qu'on a un petit peu des latéraux brésiliens, bah, il se débrouille aussi très bien sur cet aspect-là. Pardon. Donc, Caio Henrique, là aussi, c'est aussi lié au fait que bah, il n'y a pas grand monde à gauche finalement qui s'imposait naturellement. Mais Caio Henrique, c'est une vraie valeur sûre.
Ouais, Nuno Mendes, mais un peu juste. Hein.
Un peu juste.
Moins régulier. Et là, pour le coup, c'est notre petit chouchou à tous les deux. Hein. Meneur de jeu de cette équipe de Frappadingue, Monsieur Dimitri Payet.
Monsieur Dimitri Payet, parce que sans lui, Marseille n'en serait certainement pas là, en tout cas pas sur le podium, tout simplement parce qu'il a eu une influence énorme sur le jeu. Statistiquement, c'est sa meilleure saison à Marseille. Et puis, on se souvient de gestes, de passes, de gestes techniques, de roulettes.
Le leadership aussi, hein, il a tout.
Il a été vraiment, il y a une forme de plénitude qui a été atteinte chez Dimitri Payet. Un petit peu dommage que sa fin de saison se termine comme ça sur une blessure, mais vraiment, c'est l'un des joueurs marquants de la Ligue 1 cette saison. Et il avait évidemment toute sa place dans notre équipe.
Ensuite, quelqu'un avec... on a beaucoup hésité. Hein, on a tourné autour du pot, puis on s'est dit, allez, on va quand même mettre Kylian Mbappé.
Ouais.
On va quand même mettre Kylian Mbappé. Non mais là, on va le passer en 2 secondes. Hein. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur passeur, c'est le meilleur joueur.
Peut-être même du monde.
Ouais, donc voilà. Saison exceptionnelle. On a rarement vu ça en Ligue 1, très honnêtement. C'est une saison incroyable, royale.
Et l'impact sur son équipe qui est absolument énorme.
Voilà. Si Paris... Alors, pour être tout à fait franc, on va vous révéler les coulisses. On voulait mettre plus de Parisiens parce qu'on s'est dit quand même, ils sont largement champions de France et tout. Puis on s'est dit, en fait, l'influence d'Mbappé, elle est tellement énorme qu'hormis lui et Marquinhos, c'est très compliqué de trouver des joueurs. C'est vous dire le volume pris par Mbappé cette saison. Donc évidemment, ce sera le fer de lance de cette équipe type. Et on termine avec un joueur dont on n'aurait peut-être pas dit en début de saison qu'il serait là, mais lui aussi, il a fini par s'imposer comme une évidence.
C'est une progression, peut-être la plus grosse progression, je pense, sur la saison.
C'est vrai.
C'est évidemment Martin Terrier. 21 buts cette saison avec Rennes. Martin Terrier, qui était un ailier, qui s'était un petit peu perdu à Lyon notamment.
Ouais.
Là, il a des statistiques d'un vrai buteur. C'est pour ça qu'on l'a préféré aussi à Ben Yedder, parce qu'on voulait récompenser la progression et vraiment tout ce qu'il a fait sur la saison et ce qu'il fait sur le terrain aussi. C'est un joueur qui est vraiment complet, qui est capable d'aller vite, qui est aujourd'hui un excellent finisseur. Et qui
marque des buts.
Souvent très beau.
Ah oui, souvent très beau.
Et qui surtout a opéré un vrai changement dans son caractère, dans sa force de caractère. C'était un petit peu sa fragilité ces derniers mois, en tout cas avant qu'il arrive à Rennes. Genesio a réussi à le remettre en totale confiance et ça donne un joueur qui vous met 21 buts sur la saison, alors qu'il reste 2 matchs à jouer encore.
Alors le 12e homme, c'est Ben Yedder, évidemment, mais bon, il n'y avait pas de place pour Ben Yedder. Et on a choisi comme entraîneur Jorge Sampaoli. On a un petit peu discuté, on a hésité. Julien était plus sur
Julien Stéphane,
justement, et moi sur Sampaoli, et puis comme c'est moi qui fait le FC Stream Team d'habitude.
On en a discuté.
On en a discuté, puis on s'est dit quand même ce qu'il fait à l'OM, c'est quand même pas si mal, donc on a mis Sampaoli. Voilà pour notre équipe type. On va maintenant passer à l'équipe des naufragés de la Ligue 1, c'est-à-dire... ceux qui ont vécu une saison en enfer, ceux qui sont en dessous de leur niveau, qui sont même parfois en dessous de tout, qui ont vraiment passé une année très, très, très compliquée. Et bon, on va égrener le 11 et on va commencer avec le gardien de but. Honnêtement, il n'y a pas eu débat très longtemps.
C'est évident.
Le pauvre Benoît Costil, qui était si bon du côté de Rennes. Même son début de carrière à Bordeaux était plutôt pas mal. Et puis là, pire défense de Ligue 1, embrouille avec les supporters, Poussin qui lui passe devant, puis il revient dans le but et refait une bourde la semaine dernière à Angers. Enfin bref, c'est une saison cauchemardesque de A à Z pour le pauvre Benoît Costil, dont on ne remet pas en cause le talent.
Comme justement, c'est un bon exemple pour donner le sens de cette équipe. Exactement. On ne parle pas de talent, on parle vraiment de la saison.
De saison cauchemardesque, de naufrage absolu, Benoît Costil est le gardien de cette équipe. Allez, on va passer à la défense, Julien. une défense à 4 avec... tu voulais parler de l'arrière droit, donc je te laisse parler de l'arrière droit.
Paul Lirola, qui pour moi était une évidence pour cette équipe-là. Pourquoi ? Parce qu'on avait le souvenir d'un joueur qui était vraiment une très belle surprise la saison dernière. Il avait été prêté par la FIO. On s'était dit que c'était un joli coup de l'Olympique de Marseille qui avait forcé pour obtenir son transfert l'été dernier pour une somme assez importante.
Ah ouais ? Eh oui !
Plus de 10 millions d'euros, certains parlent de 12 millions d'euros même, pour une saison qui est globalement cataclysmique parce qu'il n'y a pas du tout eu le même apport offensif, que défensivement c'est très compliqué, à tel point que Sampaoli a même préféré faire de Rongier un joueur hybride entre milieu et latéral droit. Donc vraiment, énorme déception pour la saison de Lirola. Et l'image qu'on retiendra, alors c'est pas de la Ligue 1, mais c'est ce centre complètement bazardé dans les derniers instants du match contre Feyenoord en demi-finale retour de C4, qui finalement illustre ce que ce joueur a apporté tout au long de la saison.
Alors, autre naufrage, crash industriel d'un homme qui est quand même champion du monde, qui a gagné la Ligue des Champions et qui a été complètement dépassé par les événements en Ligue 1, c'est Jérôme Boateng, le défenseur arrivé à Lyon l'été dernier. Tout le monde disait, et moi le premier, que c'était franchement ce qu'il fallait à l'OL, de l'expérience. Un joueur qui a beaucoup gagné, mais alors dépassé sur le terrain, des embrouilles avec Cherki et Dubois, tout ça avec un salaire de nabab.
C'était une relation avec Peter Bosz qui est quand même pas...
très 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 compliqué aussi. Bref, il n'y a rien qui va dans la saison de Boateng, donc il prend place. Après avoir pris parfois place dans l'équipe de FIFA de l'année, là il est dans l'équipe des naufragés d'Eurosport. Pas de bol.
Lui n'a jamais eu sa place dans l'équipe FIFA de l'année.
Ah non, ça c'est sûr.
Et il a vécu aussi une saison cauchemardesque avec Lyon d'abord, et puis qu'il a fini avec Bordeaux. C'est Marcelo, parce que sur le terrain, il a été dépassé, parce que lui aussi a eu une relation un petit peu tendu avec ses supporters à Lyon. Une aventure qui s'est terminée
une mauvaise aventure dans le vestiaire, sur
les informations de confrères de l'équipe.
Voilà.
Donc vraiment, globalement, c'est une saison à jeter pour Marcelo et qui va finir malheureusement pour lui à Bordeaux. Probablement mal, si on suit ce qu'on a dit au début de cette émission. Donc vraiment, Marcelo, c'est la fin d'une histoire un petit peu compliqué avec la Ligue 1.
Arrière gauche, peut-être l'homme qui a coûté le plus de points à son équipe, entre les pénaltys et les CSC, monsieur Timothée Kolodziejczak. Alors lui, quand on parle de naufrage, je pense qu'on peut difficilement faire pire dans le genre faillite individuelle. Je pense que là, on touche le pompon et Pascal Dupraz a fini par l'écarter de son groupe. Je pense qu'il a mis un peu trop de temps, mais c'est une autre histoire. Kolodziejczak dans l'axe, Kolodziejczak à gauche. Kolodziejczak, ça a toujours été une catastrophe cette saison. Alors, il a fait quelques passes D, il a marqué quelques buts, mais quand on rapporte à ce qu'il a coûté à l'AS Saint-Etienne, et aujourd'hui, si l'AS Saint-Etienne en est là, ce n'est pas qu'à cause de lui, mais enfin, il a quand même une grande part de responsabilité. Kolodziejczak, on se souvient de l'espoir lyonnais qui avait été très bon en arrivant à Saint-Etienne, mais là, c'était sans doute la saison de trop pour lui.
Autre joueur dont on attendait énormément, un petit peu comme Boateng, on s'était dit que c'était la bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Finalement, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, c'est Wijnaldum. Le joueur arrivé libre en provenance de Liverpool. On s'attendait à un joueur travailleur au milieu, capable de bien finir, capable de délivrer des passes décisives. Finalement, on a eu l'impression d'avoir un joueur qui était complètement perdu dans l'entrejeu parisien tout au long de la saison. On s'était dit, je crois que c'était en novembre, il y a eu ce doublé à Leipzig et puis il y a eu deux bons matchs ensuite en Ligue 1. On s'est dit, ça y est, il s'est adapté, ça va venir. Et puis finalement, pas du tout, à tel point que maintenant, il n'est même plus un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, devancé par Danilo et par Idrissa Gueye.
Ouais.
Un petit peu compliqué compte tenu de son statut à son arrivée au Paris Saint-Germain.
Alors, on va continuer avec l'autre milieu de terrain. On n'en attendait pas autant, pas facile à dire. C'est Franck Sergio de Bordeaux qui a été quand même... Lui, il incarne en fait la faille du recrutement bordelais. Cette espèce de trading, on essaye... il arrive de Braga, 4,5 millions d'euros, dépassé de A à Z, d'une lenteur terrible. Lui aussi, il a condamné les Girondins de Bordeaux. Et ses coachs l'ont longtemps maintenu, alors on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il était trop lent pour jouer dans l'entrejeu. Et il a coûté très très cher aux Girondins qui, si aujourd'hui sont 20e et dernier, Franck Sergio, lui aussi, il a sa petite part, voire sa grosse part de responsabilité. Donc, il se devait d'être dans ce 11-là.
Tu parlais de talent tout à l'heure.
Oui.
Lui en a beaucoup. C'est Boulaya.
C'est vrai.
Le milieu de terrain de Metz, qui vraiment est un très bon joueur. mais qui a vécu une saison très compliquée parce que il voulait partir l'été dernier, il est resté à Metz, il a eu le Covid plusieurs fois, il y a eu la CAN, il y a eu des blessures, bref, saison vraiment très difficile pour Boulaya, qui va quitter Metz en fin de contrat cet été en laissant un petit peu d'amertume auprès des supporters Grenat. Cette saison, c'est 2 buts, si je ne dis pas de bêtises, 4 passes décisives. C'est très loin de ce qu'il avait offert la saison dernière avec le FC Metz. Et surtout, ce n'est pas digne de son talent.
Allez, on passe aux attaquants. Et lui aussi, par rapport à ce qu'il a donné à l'année dernière, c'est quand même catastrophique. On parle d'un homme à qui on aurait pu donner quasiment le trophée de meilleur joueur de la saison dernière, champion de France avec Lille, Burak Yılmaz, et qui termine la saison avec 4 buts. Lui aussi, il a handicapé quand même le secteur offensif de Lille. Alors, c'est pas le seul. On pense notamment à Jonathan Bamba qui aurait pu aussi figurer dans ce 11-là. Mais Yılmaz, il symbolise finalement la déconfiture du champion de France. Un club qui n'a jamais été à la hauteur de son statut. Yılmaz, c'était une évidence de le voir dans cette équipe-là.
Autre évidence, Mauro Icardi, attaquant du Paris Saint-Germain, dont on ne retient finalement que les histoires extra-sportives, notamment avec sa compagne. C'est 4 buts en Ligue 1, c'est-à-dire pas grand-chose.
Alors qu'il a eu sa chance notamment décembre-janvier.
Absolument, il aurait pu profiter de ce temps-là pour un petit peu se relancer. Des problèmes extrasportifs, des problèmes physiques aussi, une vraie méforme qui a duré finalement tout au long de la saison. Et à l'arrivée, un joueur dont on ne sait pas ce qu'il va devenir au Paris Saint-Germain.
Je pense qu'il a touché autant de ballons que toi cette saison en Ligue 1, quasiment, Icardi. Non, c'était, il y avait des matchs quand même où on avait un peu de peine pour lui.
Mais justement, on a souvent mis en avant sa faculté à toucher peu de ballons et à mettre beaucoup de buts.
Ouais, quand tu ne mets pas de but, là, ça devient un problème.
Exactement.
Et on termine avec un Messin, Ibrahima Niang, qui est peut-être le meilleur joueur du FC Metz, potentiellement dans cet effectif-là. On sait, génération foot, c'est Mané, c'est Sarr, c'est Habib Diallo. Bah, lui, ça a complètement coincé, Niang. 3 buts même cette année. Et puis, il s'est fait dégommer par son entraîneur Frédéric Antonetti, qui l'a trouvé insuffisant. Qui a dit notamment « J'ai tout essayé avec lui, j'y arrive pas ». Niang devait être le fer de lance du FC Metz, porter le FC Metz cette saison. Il l'a plombé. Metz a quand même de grandes chances de descendre. Et Niang y est forcément pour quelque chose. Voilà pour l'équipe des naufragés de cette saison en Ligue 1. Difficile pour eux. Tout le contraire de toi, Julien. Là, ce n'est pas un naufrage. Là. C'est une consécration. C'est même une révélation, j'ai envie de dire, Julien. Donc, si Maxime ne revient pas, ce qu'on ne souhaite pas.
Non.
Tu dis non, mais dans tes yeux, je vois oui, Julien, et c'est ce qui me dérange.
Non.
On sait qu'on a avec Julien un rock. Et allez voir les vidéos, parce que je vous dis, le mec, c'est 1m71, certes, mais 1m71 de muscles. Hein, c'est ça, Julien ?
Pas du tout.
Non, pas du tout. Ouais. Il y a du gras, mon gars.
Partout.
Partout, ça déborde. Merci, Julien.
Merci à toi.
Merci à Sébastien Petit à la réalisation.
Et à Quentin Guichard.
Et à Quentin Guichard pour les visuels. Voilà pour ce FC Stream Team. Avec un niveau sonore beaucoup plus bas que d'habitude. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite voix douce et réconfortante.
Ça te va mieux, tu devrais essayer.
Je devrais essayer ?
Ouais,
c'est vrai que... Bon, après, au bout d'un moment, peut-être qu'on perd les gens, non ? Je sais pas, mais là, s'il y a des gens qui sont arrivés jusque-là, déjà chapeau à vous. Et puis voilà. Écoutez, suivez-nous évidemment, le FC Stream Team. Allez noter le podcast, allez regarder les vidéos et puis partagez ça autour de vous.
Et mettez-nous vos équipes types, voire votre équipe de naufragés.
Tout à fait. Venez nous chercher sur Twitter ou alors même sur Apple. On lira les commentaires. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Retour de Maxime Dupuis et puis Julien, lui, il va retourner. Voilà, vivre sa vie, partir comme un prince, comme un seigneur.
Je reviendrai pour Tour d'Europe dans 2 semaines.
Exactement. Merci Julien.
Merci à toi Martin, merci à tous.
Et merci à tous. Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.